François de Brosne, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Vous êtes professeur associé à Sciences Po. Il y a 80 ans, le 27 janvier 1945, l'armée soviétique libérait le camp d'Auschwitz. Cette date symbolique a été retenue par certains États du Conseil de l'Europe en 2002, puis par les Nations Unies en 2005 pour commémorer les génocides et œuvrer à la prévention des crimes contre l'humanité. Cette année, les cérémonies pour le 80e anniversaire de la libération du camp de concentration d'Auschwitz virent un peu au cauchemar pour les organisateurs. Prévu lundi prochain, donc le 27 janvier, ce moment de souvenir et de paix et de concorde semble pour l'instant causer tout le contraire. L'une des épines dans le pied des organisateurs concerne le cas israélien. Benjamin Netanyahou sera notamment arrêté s'il met le pied en Pologne, comme l'affirmait il y a quelques semaines un membre du gouvernement polonais. Il y a en effet toujours un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre le Premier ministre israélien et le chef de la délégation Auschwitz, à l'occasion de ce 80e anniversaire du côté d'Israël, pourrait seulement être son ministre de l'Éducation. François Elbron, les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz devraient être vraiment un moment de souvenir et de partage, et pas un moment comme nous le vivons actuellement.
Tout à fait, Pierre. Et il faut peut-être faire un rappel historique, vous l'avez fait brillamment d'ailleurs. Cette cérémonie internationale date que depuis 20 ans, c'était pour les 60 ans. On se rappelle encore des photos de Jacques Chirac et de Simone Veil allant en 2005 à Auschwitz sur ces cérémonies internationales, les premières, et donc il avait fallu attendre 60 ans, et qu'enfin le génocide des Juifs, la Shoah, soit reconnu internationalement, et que ce soit donné comme exemple pour une journée internationale de souvenir sur le génocide des Juifs, mais aussi les autres grands génocides que sont ceux des Arméniens, les premiers. On peut penser aussi aux Hérero et aux Nama en Namibie, et bien sûr les Tziganes en Europe, et les Tutsis plus près de nous au Rwanda. Et donc c'est cette journée-là où normalement on doit réfléchir aux crimes contre l'humanité, aux plus atroces des crimes contre l'humanité, qui est le génocide, où il y a une intention génocidaire, il faut toujours bien préciser ce terme, une intention génocidaire d'exterminer volontairement un peuple. Et cette année, effectivement, ces 80 ans se fracassent avec la propagande islamiste redoutable, relayée par des organismes de gauche et d'extrême-gauche, qui veulent faire croire que les nouveaux génocidaires du XXIe siècle sont les Israéliens et les nouveaux juifs du XXIe siècle seraient les Palestiniens. Et c'est une insulte à nos morts, c'est une insulte à la vérité, c'est aussi une insulte à la justice et à l'histoire. À Gaza, il y a eu une guerre qui... heureusement, est sûrement en train de s'achever. Il y a eu, comme dans toute guerre, notamment en territoire urbain dense, des victimes civiles qu'il faut déplorer. Mais face à un ennemi terroriste caché au milieu de la population civile, comme on l'a vu dans les hôpitaux et les écoles, il était difficile pour l'armée israélienne de limiter au maximum les morts civiles. Mais ce qu'ils ont fait, et l'ont fait plus considérablement que bien d'autres armées occidentales, sans parler évidemment des armées des dictatures, mais eux, ils font même pas l'effort d'épargner les civils. Et donc cette accusation terrible portée, ce mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, est aussi une insulte à la mémoire de tous les vrais génocides et une insulte à Israël. Israël qui s'est trouvé confronté à une guerre sur sept fronts depuis maintenant 16 mois. Et donc il est dommage que le Premier ministre d'Israël, quel qu'il soit, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir de lui, quel qu'il soit, ne puisse pas participer comme ils ont participé à toutes les cérémonies en Pologne, sur le camp même d'Auschwitz, sur ce symbole du crime. C'est à la fois le plus grand centre d'extermination, puisqu'un million de Juifs ont été exterminés sur les 6 millions, mais aussi c'est aussi le symbole de la Shoah. Et que le Premier ministre israélien ne puisse pas s'y rendre serait une insulte à la mémoire de nos victimes, une insulte au visage d'Israël et une lâcheté de plus d'une grande partie de la communauté internationale.
François Elbron, 80 ans après la libération du camp d'Auschwitz, quand on voit l'antisémitisme à travers le monde, que ce soit en France, en Australie, aux États-Unis, on se dit que personne n'a retenu les leçons du passé et notamment de la Seconde Guerre mondiale.
Alors je dirais oui et non. C'est un peu l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Il faut voir que, par exemple, en France, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, 60% des Français se déclaraient antisémites. Et c'était normal, ils avaient eu 4 ans de propagande antisémite intensive. Aujourd'hui, ce chiffre est plutôt de l'ordre de 30%. Il est beaucoup trop important. On en a souvent parlé à votre antenne. Il a énormément monté ces dernières années. Mais quand on le regarde dans sa segmentation, ce qui est à la fois rassurant, mais aussi inquiétant, c'est rassurant puisque les générations au-delà de 40 ans sont de peu antisémites et de moins en moins antisémites, ce qui est inquiétant, c'est qu'une partie de la jeunesse, manipulée par les réseaux sociaux, manipulée par la propagande islamiste, manipulée par les propagandes d'extrême gauche, d'antisionistes à anti-israéliens, bascule vers l'antisémitisme et ça touche toutes les démocraties occidentales. Et effectivement, c'est très inquiétant parce qu'on est en train de passer, comme l'a très bien défini mon ami Dominique Régnier, prof à Sciences Po, on est en train de passer d'un antisémitisme de préjugés à un antisémitisme d'agression. Donc c'est pas juste d'avoir des idées négatives sur les juifs, et à ce moment-là, se les garder pour soi, ça c'est pas, à la limite c'est embêtant, mais c'est pas trop grave. Passer à un antisémitisme d'agression avec, comme on l'a vu l'année dernière, en 2024, certainement près de 1600 agressions antisémites en France, près de 10 000 aux États-Unis, plus de 2500 en Angleterre, et comme vous l'avez rappelé, en Australie, qui était un pays totalement épargné, de plus en plus d'agressions antisémites. Donc effectivement, c'est pas qu'on n'apprend rien de l'histoire, parce que je pense qu'on a appris de l'histoire, mais que l'antisémitisme est quelque chose de formidable, c'est la plus formidable des haines et la plus ancienne des haines, mais elle a tendance à muter, et donc c'est pas l'antisémitisme racial des nazis, et celui-là, il a pratiquement disparu. C'est un antisémitisme où derrière chaque juif, on voit un soldat israélien, et un soldat israélien caricaturé comme quelqu'un qui est un génocidaire, et je mets évidemment des guillemets parce qu'il ne l'est pas. Et donc, quand vous êtes complice d'un génocide, on peut vous agresser, et on se fait agresser pour ça. Et donc, il y a un retournement de l'histoire, il y a une négation de l'histoire, et il y a une salissure de ce que c'est. De ce qu'est Auschwitz et de ce qu'est la mémoire de nos morts.
Trois jours après sa libération de captivité à Gaza, l'ex-otage Romy Gonen a publié hier soir son premier message sur son compte Instagram et dans ce post, accompagné d'une photo d'elle avec sa mère, la jeune femme a exprimé sa gratitude à tous ceux qui se sont battus pour sa libération et qui ont soutenu sa famille. François Heilbronn, Israël va-t-il enfin récupérer tous ses otages ?
Nous l'espérons tous et Israël paie, comme toujours, le prix maximum pour libérer les otages, mais c'est dans la grande tradition juive où les otages juifs, on en a eu de tout temps, autant des croisades, autant des persécutions. Et à chaque fois, les juifs ont payé le prix de l'or, le prix du sang pour récupérer leurs otages. Et c'est cette solidarité juive qui est exemplaire, puisque là, comme on le voit, on libère une otage contre 50 terroristes, un otage contre 30 terroristes. Et quand on regarde la liste des plus de 90 terroristes qui ont été libérés pour libérer Émilie, Doron et Romy, c'est à vous faire frémir. Notamment, moi, j'ai été très touché par un nom. Le responsable de l'attentat de la cafétéria de Jérusalem en juillet 2002, qui était donc responsable de la mort de 9 étudiants. Et parmi ces 9 étudiants, il y avait un étudiant que je connaissais, David Gritz, qui était étudiant à Sciences Po en échange. Et donc, le meurtrier de ce terrible attentat, et il avait été aussi responsable d'autres attentats, il a coûté la vie de plus de 35 personnes, mais il a retrouvé la liberté. Et donc on rend la vie à nos otages israéliens, juifs, de manière admirable, et en prenant tous les sacrifices. Et il faut vraiment saluer la démocratie israélienne pour ce courage, et je suis quasiment sûr que Israël va continuer cette démarche. Et je voudrais rajouter quelque chose. J'ai été, comme beaucoup d'entre nous, très frappé par la photo et les images que nous avons vues au moment de la libération de Doron, Émilie et Romy. Et notamment quand on voit Doron sortir d'un van de la Croix-Rouge entouré par des militaires armés du Hamas, encagoulés avec leurs bandeaux appelant le djihad sur le front, leur kalachnikov à la main. Et on voit cette horde de pogromistes entourant une jeune fille seule. Et ça rappelait d'autres images, d'images des pogroms à l'est à l'Europe. Ça rappelait les milices armées qui massacraient les jeunes filles juives. Ça rappelait les officiers SS qui entouraient l'innocence. Et cette image, justement, à une semaine des commémorations de la libération de Juifs, c'est une image terrible parce que les mêmes meurtriers, les mêmes barbares qui ont la haine du juif, qui ont l'envie de tuer les juifs, sont toujours là. Ils sont moins en Europe, bien qu'il y en a en Europe, mais moins en Europe. Et ils sont au Proche-Orient, et notamment le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, et un certain nombre de fanatiques islamistes qui ont un rôle plus ou moins important dans les différents pays de la région. Donc ces deux images se confrontent dans nos perceptions. Et il faut garder à l'idée que c'est par la compréhension de l'histoire qu'on peut mieux éviter qu'elle ne se répète. Et il faut saluer le courage de la démocratie israélienne qui est prêt à faire tous les sacrifices pour retrouver tous ses otages vivants ou morts, et on espère le plus grand nombre vivants.
Un mot pour finir, l'investiture du 47e président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, c'était il y a quelques jours, toutes les nominations confirmées, que ce soit la nouvelle ambassadrice américaine aux Nations Unies, le nouveau secrétaire d'État, Marco Rubio, une équipe vraiment pro-israélienne, mais dans le même temps, on voit Donald Trump signer des décrets, sortir de l'Organisation mondiale de la santé, sortir de l'accord de Paris sur le climat, s'en prendre au wokisme et en même temps au genre, en définissant qu'il n'y avait que deux genres, le genre masculin et le genre féminin. Qu'est-ce que cela présage dans les mois à venir, dans les années à venir, avec le retour de Donald Trump comme chef des États-Unis?
Vous résumez ça bien, un certain nombre de choses. Ça montre bien d'abord qu'il est totalement déterminé, qu'il est déterminé parce qu'il a eu une victoire énorme à la présidentielle, mais qu'il a aussi gagné le Sénat et la Chambre des représentants. Donc il peut vraiment faire ce qu'il veut, puisqu'il détient le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et on connaît maintenant, parce qu'on l'a vu agir pendant 4 ans comme président, où il n'avait pas autant de pouvoir, c'est quelqu'un de brutal et qui utilise sa brutalité comme un bon entrepreneur qu'il a su être ou pas être, d'ailleurs, comme promoteur immobilier à New York. Il utilise sa brutalité pour établir un rapport de force avec les autres et, à partir de ce rapport de force, négocier en meilleure position. Sur Israël, c'est peut-être le seul point auquel on va s'attarder, parce que sinon il y aurait trop de choses à dire. Sur Israël, il y a tout ce que vous avez dit, mais il y a aussi des éléments positifs. Notamment, il a levé toutes les restrictions sur la livraison d'armes à Israël, y compris la fourniture de bombes de 1000 kilos. Il a signé aussi un ordre exécutif visant à suspendre l'aide des États-Unis à l'UNRWA. Il a rétabli les sanctions contre la Cour pénale internationale, celle dont on parlait précédemment, et des sanctions qui avaient déjà été annulées par Biden. Et intéressant aussi, il ordonne l'expulsion des détenteurs de visas qui soutiennent des idéologies haineuses, le terrorisme ou des menaces pour la sécurité nationale, comme des personnes impliquées dans les manifestations pro-Hamas, et notamment dans les universités. Et donc c'est intéressant, parce qu'effectivement, si vous appelez à l'apologie du terrorisme, à la sédition, aux États-Unis, il y a une liberté d'expression totale, mais là, il y a une limite qui est marquée, et nombreux étudiants étrangers qui étudient aux États-Unis, ben, ils penseront à deux fois avant d'attaquer les autres étudiants, de les agresser, notamment les étudiants juifs. Et d'ailleurs, le même jour, l'université de Harvard a publié un communiqué comme quoi toute expression de haine antisioniste serait maintenant condamnée par l'université d'Harvard. Et comme on le voit, c'est un changement important. Donc effectivement, il y a des gestes troublants, il y a des menaces de la part de Trump et de certains de ses lieutenants. Mais il y a aussi, en tous les cas, pour la défense d'Israël et pour la défense des Juifs, des choses qui vont dans la bonne voie.
François Heilbronn, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes professeur associé à Sciences Po. Merci et bonsoir.
Bonsoir Pierre.